France Inter, il est 19h21. On retrouve tout de suite Alain Bédoué pour le téléphone sonne. Il est en direct et en public de Poitiers. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com.
Bonsoir. Un drame et un scrutin. Un drame qui a frappé les côtes de la région il y a deux nuits et un scrutin régional qui concerne le Poitou-Charentes dans moins de deux semaines. Ce soir, on vient de vous le dire, nous sommes en direct et en public du Théâtre Auditorium de Poitiers avec, comme d'habitude, nos partenaires du Monde et de France Bleu pour la suite de ce Tour de France des régionales, mais une suite marquée également par cette tempête qui a très durement frappé le littoral de Vendée et de Charente-Maritime. Deux événements, l'un climatique, l'autre politique, et pourtant pas si éloigné qu'il y paraît, puisqu'on a constaté dès dimanche, face au drame, l'union sacrée de tous les élus, de quelque bord qu'ils soient, pour les appels à l'aide et à la solidarité, mais aussi parce qu'après tout, personne n'est à l'abri. On pense, et nous en avions parlé dans cette émission, aux deux tempêtes consécutives qui avaient touché près d'une moitié de la France. C'était en 99. Il y avait eu aussi les inondations du Gard en 2003, ou plus récemment, cette catastrophe qui avait littéralement ravagé les forêts des Landes. Alors tout le monde se sent concerné, aussi bien à Lille qu'à Lyon, au Mans ou à Aix, autant de villes où nous étions avec Le Monde les semaines précédentes, ou encore donc ici ce soir à Poitiers, avec des enjeux, et vous êtes un certain nombre à le faire remarquer, qui sont également des enjeux politiques au sens premier, dès lors qu'après tout, prévoir, prévenir des risques, construire des digues, aménager des côtes, eh bien tout ça relève aussi de la gestion et de la protection des territoires dont les régions sont un des symboles, même si bien évidemment les responsabilités peuvent être tout à fait ailleurs. Tempête et perspectives politiques, les internautes nous interrogent à la fois sur les sites du monde.fr, de franceinter.com. Il y a déjà des questions au standard du 01 45 24 7000. Et comme nous sommes, je l'ai dit, en public dans ce très bel auditorium de Poitiers, nous aurons peut-être aussi des questions ou des commentaires dans la salle. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Des micros sont à votre disposition. Avec nous, face à vous, pour ceux qui êtes dans le public, Dominique Breillat, politologue, professeur émérite à la faculté de droit de Poitiers, Jean-Michel Normand du journal Le Monde, Pascal Roche, rédacteur en chef de France Bleu Poitou, et puis pour les questions concernant plus directement la tempête et ses conséquences, nous aurons au bout du fil, en direct, Patrick Lagadec, directeur de recherche à l'École Polytechnique, spécialiste de la gestion des crises, qui a publié « La fin du risque zéro » aux éditions d'organisation. Nous aurons également en cours d'émission notre confrère Gilles Vandecotte du Monde, qui dès hier signait un premier papier sur les constructions en zone inondable.
Le téléphone sonne.
Comme chaque soir, on commence par le standard du téléphone sonne. Dominique, vous êtes tout près d'ici. Bonsoir, vous auriez pu venir. Vous êtes à Poitiers.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Dominique, on vous écoute.
Avant de poser ma question, je voudrais exprimer ma solidarité aux familles des disparus et à tous les sinistrés de nos deux régions. Compte tenu des éléments factuels suivants, on connaissait une heure précise de la marée haute dans la nuit de samedi à dimanche. On connaissait les hauteurs d'eau qui sont estimées sur des bases moyennes de 1013 hectopascales au plus haut de la marée. On connaît l'influence d'une dépression sur la hauteur d'eau, c'est-à-dire que plus la pression atmosphérique baisse, plus le niveau de l'eau monte. On connaissait la vitesse du vent aussi. Oui. On connaissait les alertes météo lancées par dès vendredi soir par Météo France. Les prévisions météorologiques donnaient la trajectoire qui était suivie par la dépression, l'intensité et la durée prévisible du phénomène et la vitesse de déplacement de celle-ci. On pouvait donc, à mon sens, prévoir la zone de contact avec le continent et le créneau horaire de passage. On a aussi, dans nos régions, établi des plans de prévention des risques par les collectivités. Les collectivités territoriales les ont établis et on a eu aussi des inquiétudes exprimées par des associations auprès de différents services de l'État. Je me pose une question. Pourquoi les représentants de l'État, par exemple du ministre de l'Intérieur au préfet, au nom du principe de précaution déjà mis en œuvre pour protéger des vies humaines, n'ont-ils pas pris la décision d'évacuer les habitants des zones identifiées comme sensibles ?
Patrick Lagadec, qui êtes en direct avec nous, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Dominique de Poitiers ?
Oui, ben, bonjour et
bonjour.
Bonjour à tous ceux
merci
qui sont
d'être là.
Soit au sec, soit dans l'eau, je compatis. Pour répondre, j'ai pas fait l'enquête, elle reste à faire. Donc toutes les questions qui viennent d'être posées doivent être posées. Si je prends quelques hypothèses, je me dis premièrement, il n'y a jamais eu l'habitude de le faire. C'est pas une pratique courante. Or, souvent, dans les réflexes que l'on a, ben, on applique des schémas habituels. Deuxièmement, la lecture, sauf si on me dément et que ce n'a pas été la lecture locale, la lecture était en gros beaucoup de vent, 99, on fera mieux que 99, autant attention au vent et attention aussi aux crues de rivière. Je n'ai pas vu expliciter le fait que, en 99, par exemple, la centrale du Blayais avait été un peu inondée, et que là aussi, on risquait des inondations, et donc il y avait des zones à risque. Je n'ai pas vu expliciter. Donc l'alerte faudra avoir précisément. Mais le mécanisme par lequel on peut vraiment prendre en compte toutes les questions qui viennent d'être posées, je pense qu'on ne dispose pas dans notre pays de structures de questionnement immédiatement mobilisées lorsque se produisent des événements un tout petit peu en dehors de la normale. Il aurait fallu se poser des questions très vite et il faut toujours se les poser. De quoi s'agit-il ? Et par exemple, on va se focaliser sur le vent, mais si c'est l'eau, c'est autre chose. C'était le grand problème à Katrina. Et se poser immédiatement la question, quels sont les pièges ? Par exemple, se focaliser sur le vent. Par exemple, se focaliser sur les routes alors qu'il y a des zones submersibles, on va les oublier. Non pas la mer qui serait le lieu d'attaque, la direction d'attaque, mais la rivière. C'est tout à fait surprenant. Oui. Si on n'a pas, en temps réel, la capacité de monter, et que c'est habituel de le faire, des cellules qui réfléchissent vraiment en questionnement extrêmement ouvert et à très haute vitesse, que tout ceci se passe à très haute vitesse. Si on n'a pas l'habitude, mais qu'on est beaucoup plus fixé sur la perfection dans l'application de ce qu'on sait, on risque d'être très très souvent surpris. Voilà une réponse sur les méthodes de travail et d'organisation sur lesquelles il faut réfléchir aujourd'hui.
Merci Patrick Lagadec. Je veux dire, j'ai un écran devant les yeux. Beaucoup de questions d'internautes du Monde ou de France Inter sur ce thème, l'imprévisibilité des catastrophes. Et puis ensuite, ce qui se passe après, parce que ce n'est pas parce qu'on a prévu que automatiquement, on prend des décisions qui peuvent être tout à fait coercitives, notamment, en l'occurrence, évacuer des gens en pleine nuit qui, effectivement, se sont retrouvés en plein sommeil, pris par les eaux. Dans un des lieux sinistrés, la Faute-sur-Mer, c'est un des lieux que vous connaissez bien, Pascal Roche de France Bleu Poitou. Oui, c'est vrai que c'est pas simple à gérer, quand même.
Non, c'est pas facile. Il n'y a pas de culture de l'inondation dans notre pays. Et c'est vrai qu'on l'a vu dans les inondations aussi, dans le Languedoc en 99, en 2003. C'est ce que les autorités ont cherché à développer, que les habitants s'approprient ces phénomènes climatiques. Et ce qui était très intéressant dans les témoignages qu'on a pu entendre sur les différentes antennes, c'est que le maire de Saint-Clément-les-Baleines sur l'île de Ré a, lui, cette culture de l'inondation parce que l'île est très basse et son village est régulièrement menacé par la mer. Alors qu'en face, en Vendée, à L'Aiguillon-sur-Mer, ce village, cette commune, elle fait 12 km de long, 700 mètres de large. Elle est née au Moyen-Âge, elle a mis des siècles à se poser finalement là où elle est aujourd'hui. Et même le vieux village dimanche a été inondé. Ça veut dire que là où on croyait être à l'abri au 19e siècle, on ne l'est plus 100 ans ou 150 ans plus tard. Ça veut dire que peut-être que tout n'est pas écrit, qu'il y a aussi peut-être une part de fatalité.
Avant la première question ici dans cet auditorium de Poitiers, un courriel d'Annie à Saint-Sanin, ça fait partie de la région. On dit que la campagne est en train de décoller. Pensez-vous que cette tempête et les dégâts causés pourraient jouer dans la décision des électeurs ? On en parlait juste avant de commencer, ici même, on est encore une fois sur une scène devant un public. Dominique Breillat, vous me rappeliez qu'en 2002, en Allemagne, alors qu'un certain Schröder jouait très gros, on avait assisté à ce même phénomène d'interconnexion, de croisement entre un événement climatique et puis un vote des décisions politiques.
Oui, en 2002, il y avait eu de très très graves inondations un mois avant les élections en Saxe, du côté de Dresde, et il y avait eu une très grande réactivité de Gerhard Schröder alors qu'il était mal placé dans les sondages, et Edmund Stoiber, son adversaire, lui, n'avait pas eu cette réactivité, et il est évident que l'attitude de Gerhard Schröder en 2002 a été un élément déterminant pour lui permettre de justesse de remporter les élections.
Émission spéciale régionale Le Monde France Inter, la tempête, mais bien évidemment les scrutins du mois prochain. Une première question dans la salle, monsieur, bonsoir, bienvenue, vous avez un micro.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Loïc de Poitiers, bienvenue à France Inter.
Merci.
En Poitou-Charentes. Voilà, donc la remarque que je voulais amener ce soir a déjà été plus ou moins développée à l'instant, justement, quant à la prévention des risques et surtout à l'ordre d'évacuation. Moi, ma réflexion de marin du dimanche, elle est toute simple, c'est de dire, Météo France a fait une prévision impeccable, direction du vent, force, la dépression, on sait qu'elle est là, parce que s'il y a une dépression, il y a forcément une tempête, donc il n'y a pas de quoi s'étonner de ça. Et troisièmement, on se dit, la marée était très haute, fort coefficient, le calendrier des PTT nous dit un an avant à quelle heure sera la marée, etc. Donc, toute la journée d'aujourd'hui sur France Inter ou dans les journaux télévisés, j'ai été complètement effaré de voir des élus, des hommes d'État, de l'État, étonnés par cette conjonction, parce que c'est vraiment le mot aujourd'hui, de ces phénomènes. Mais enfin, quand même, je veux dire, à La Rochelle, en 99, on a eu le même problème, on a retrouvé des bateaux dans les champs. Mmh. Donc, quand il y a une forte tempête d'un vent du sud-ouest, avec un fort coefficient et tout ça tombe à la même heure, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de l'eau qui rentre dans les quartiers. Donc, moi, je suis complètement effaré du discours de ces gens toute la journée, et que peut-être qu'il va falloir apprendre maintenant que l'ordre d'évacuation, c'est quelque chose qui existe. On l'a bien fait au Mans pour une bombe américaine. Alors, le port des Minimes, il a été évacué, il n'y a pas eu de mort. Le port des Minimes à La Rochelle, Saint-Clément des Baleines, pas de problème. Peut-être qu'il va falloir étudier un peu plus ça dans profondeur.
Jean-Michel Normand du Monde, pour répondre à cette personne qui nous fait l'amitié d'être ici en direct dans le public à Poitiers.
Écoutez, je ne sais pas si les protagonistes de la campagne des régionales ici ou ailleurs vont s'approprier ce débat qui est essentiel, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est un débat qui transcende effectivement les clivages politiques, parce que c'est une question qui interpelle l'ensemble des élus régionaux, mais surtout locaux. C'est-à-dire, quand on sait que les plans d'urgence, les plans de prévention des risques qui concernent 12 000 communes, il y en a que 7 600 qui les ont mis en œuvre, je crois que c'est un début de réponse. Je pense que c'est une question qui interpelle l'ensemble du monde politique.
Et puis alors, il y a ce qui se passe encore une fois ensuite, après le caractère prévisible, après la décision ou pas d'évacuer. Nous avons un de vos confrères en ligne, Jean-Michel Normand, c'est Gilles Vandecotte du Monde, donc, qui a signé hier le premier papier sur les zones inondables. Merci d'être au téléphone, Gilles Vandecotte. Je vous lis quelques-uns des courriels qu'on a reçus, et notamment de gens directement concernés. Bertrand Charente-Maritime. Mais enfin, pourquoi donc les élus et l'administration locale, l'équipement, je crois, laissent-ils ainsi construire en zone inondable? J'ai aussi Christian à Fouras, Charente-Maritime. Appelons un chat et un abus en abus. Nos côtes ne sont-elles pas pour partie victimes de l'aménagement du littoral? Est-ce qu'effectivement on construit un peu trop facilement, même si, il faut l'admettre, la pression doit être très forte à la fois sur les élus et les fonctionnaires de l'équipement pour pouvoir bâtir, construire tout près de la mer sur les côtes?
Écoutez, on a construit très facilement jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Les contraintes n'étaient pas du tout les mêmes. Donc il existe dans ces zones inondables des maisons nombreuses construites il y a maintenant plusieurs décennies et qui sont donc menacées en cas de crue. Mais on construit encore aujourd'hui, puisque entre 1999 et 2006, près de 100 000 logements ont été construits en France dans des zones inondables. Alors pourquoi? Parce qu'il y a les élus se trouvent coincés entre les contraintes qu'essaye d'imposer l'État pour éviter ce type de catastrophe et la pression immobilière, qui est la pression parfois de leurs citoyens, de leurs concitoyens qui veulent pouvoir construire, qui veulent pouvoir s'installer le plus proche possible de la mer et qui parfois le font de façon un petit peu inconsciente des risques qui peuvent survenir.
Merci Gilles Vandecotte. Avant de repasser au standard pour un autre appel, un petit sourire, toute révérence gardée, et puis avec beaucoup de respect pour les sinistrés qui ce soir encore pour certains d'entre eux n'ont pas pu regagner leur domicile. C'est un courriel de Philippe à Poitiers également. Il paraît, dixit notre président, qu'il faut faire toute la lumière sur ce drame inacceptable. Sans doute, va-t-on traîner la mer et le vent en correctionnel ou faire une loi anti-tempête ou les mettre en garde à vue? Moi, je suggère un débat national sur le thème. De quel droit cette eau venue d'ailleurs vient-elle inonder nos côtes? Encore une fois, avec tout le respect pour les gens qui véritablement sont inondés et continuent d'être sinistrés ce soir. Je crois, avant le prochain appel, Pascal Roche de France Bleu Poitou, vous vouliez ajouter un mot.
Sur la pression immobilière, elle n'est pas nouvelle, elle s'est juste accentuée ces 20 dernières années. Châtelaillon, le casino, il est posé sur la plage. La voie ferrée, elle passe derrière, à Étré, elle passe juste à côté de la mer. Donc ça a plus de 100 ans. Châtelaillon, c'était les bains de mer à la mode à la fin du 19e siècle. Les maisons, elles sont tout près de l'eau. Et c'est la banlieue de La Rochelle aujourd'hui, avec une pression effectivement démographique très importante.
Jean-Michel Normand, du Monde.
Dans le Monde d'aujourd'hui, Jean-François Fontaine, qui est vice-président de la région, oui, raconte que des habitants de Port-en-Ré ont obtenu gain de cause auprès du tribunal administratif pour qu'on ne réélève pas un mur de protection parce que ça leur empêchait de voir la mer.
Voilà, ils ont obtenu gain de cause. Ils veulent la vue, ils veulent voir la mer, et vous avez raison, ils ont obtenu gain de cause. Patrick Lagadec, vous vouliez un commentaire et ensuite on repassera à une question ici dans l'auditorium théâtre de Poitiers. Patrick Lagadec.
Oui, je ressongeais, pardonnez-moi, mais sur l'affaire de ce week-end.
Oui.
L'un d'entre nous disait tout à l'heure, c'est tout à fait juste, tout n'est pas écrit et loin de là. Et alors donc, il reste une part pour la fatalité. Je pense qu'avec le développement des risques aujourd'hui, la complexification, la densification de la population, etc., effectivement, tout sera de moins en moins écrit. Mais notre responsabilité redouble dès lors que l'on est au-delà de ce qui est déjà écrit. Et au lieu de tout de suite dire, c'est la part de la fatalité, je pense que nous avons un espace de travail et de responsabilité, même au sens politique du terme, c'est-à-dire comment on anticipe, comment on gouverne nos démocraties aujourd'hui dans ce milieu un peu compliqué en termes de risque.
Oui.
Cette part de l'au-delà de l'écrit devient de plus en plus importante, et c'est un territoire qu'il faut absolument conquérir. Or, nos habitudes culturelles fait qu'on dit non, soyons pas pessimistes, restons aux statistiques, restons à ce à quoi on a l'habitude d'avoir, et il y a déjà beaucoup d'exemples. Donc ne faites pas peur aux uns et aux autres. Et moi, dans mon habitude quotidienne, j'entends ne faites pas peur aux décideurs. Si vous avez des réponses, donnez-les, mais n'allez pas mettre des questions à l'ordre du jour. Et surtout pas en formation initiale non plus, parce qu'il faut donner des outils de réponse. On va pas donner des questions pour s'apprendre à piloter son mode d'emploi. Surtout pas. Donnez-nous des caisses à outils, donnez-nous, etc., etc. Et je crois que celui qui d'entre nous disait tout n'est pas écrit, c'est exactement ça le sujet, et ça va être, je crois, vu la complexification croissante, de moins en moins écrit, donc de plus en plus responsable pour nous de mettre ces sujets-là à l'ordre du jour et de pas les laisser à la fatalité.
Et de plus en plus difficile, disons-le, et chaud pour les politiques qui sont censés prendre des décisions. Merci pour cette analyse.
C'était Le Téléphone Sonne, une émission dirigée par Alain Bédoué.